maintenant que j'ai présenté la revue Souffle, je passe immédiatement à la revue telle qu'elle, au magazine tel quel, dont le choix sera, vous le constaterez, un peu moins évident que celui de la revue Souffle, dont la rhétorique contestataire est très claire et qui accompagne à la fois sa vocation littéraire et culturelle et poétique. Mais bien que problématique, ce choix de tel quel est légitimé par le fait qu'il se présente, ce magazine se présente lui-même comme une interface entre les acteurs de l'espace culturel et la société civile et le public francophone marocain. Pour ce qui est de la vocation littéraire, elle est beaucoup moins marquée, même si le magazine publie des nouvelles qui correspondent à sa ligne éditoriale, mais cela reste tout de même assez marginal. D'où le choix de le coupler avec le recueil de nouvelles, Nouvelles du Maroc, publié récemment. Alors, pour présenter très rapidement tel quel, il est dirigé par le journaliste et éditorialiste Karim Boukhari. Et sur le site de tel quel, auquel on peut accéder aussi sur Internet, on présente la revue, le magazine de la manière suivante. Tel quel raconte, décrit, explore le Maroc tel qu'il est. Aujourd'hui et depuis quelques années, tel quel est le magazine francophone marocain le plus lu au Royaume, en effet. Les chiffres l'attestent. Fondé en 2001 par Ahmed Reda Ben Shemsi, tel quel s'est démarqué depuis sa création par sa liberté de ton, en défendant les valeurs qui font sa ligne éditoriale. Alors, quelles sont ces valeurs? Un Maroc pluriel, démocratique, laïque, où les libertés individuelles peuvent s'exprimer. Alors, chaque semaine, le magazine aborde des sujets politiques, économiques et culturels qui font l'actualité marocaine. Il décrypte les tendances à travers des enquêtes ou des reportages, souvent rigoureux, pas toujours. Et ce magazine se présente comme une tribune pour des voix progressistes. Son doublé arabophone, parce que lui aussi avait un doublé arabophone, s'appelle Nichen, expression d'origine berbère qui signifie tout droit, direct, en arabe donc, ou en berbère, comme on voudra, en arabe marocain. Son doublé donc arabophone s'est vu, comme par hasard, interdire, lui aussi, suite à une production d'un dossier sur les blagues marocaines. Naturellement, les blagues marocaines portent sur les trois tabous essentiels au Maroc, c'est-à-dire Dieu, la patrie et le roi, donc la religion, la patrie et la personne du roi. Non, pardon, la patrie et le roi, c'est la même chose. Non, c'est plutôt l'islam, le roi et donc la patrie, et le sexe, troisième tabou. Voilà, donc ces trois, les blagues portent là-dessus. Les journalistes Driss Ksikes, qui était à l'époque directeur de publication, et Sana El-Aji, qui est journaliste de langue arabe et qui écrivait dans ce journal Nichen. En fait, c'est un journal que je dirais diglossique, puisqu'il est à la fois en arabe et en dialecte marocain. D'où sa, comment dirais-je, son danger au Maroc. Donc, ces deux journalistes qui ont encadré ce dossier furent condamnés à 80 000 dirhams d'amende chacun et à 3 ans de prison, il me semble, mais en sursis, bien entendu, ils n'ont pas fait de prison. Les sujets tabous dont il était question dans ce dossier, donc relevés du sexe, de la religion et du politique, mais les islamistes ont surtout considéré que dans la publication de ces blagues, il y avait une atteinte aux principes de l'islam et aux bonnes mœurs. Donc, malgré les excuses présentées par les journalistes à leur public, ces défenseurs de bonnes mœurs n'ont pas décoléré. Et donc, beaucoup d'autres journaux les ont attaqués, d'ailleurs même sur leurs propres excuses, en disant par exemple, et je me reporte à la Nouvelle Tribune, qui pourtant est publiée par, même si elle se dit indépendante, elle est publiée par le fils de Ali Atta, qui était le chef du Parti communiste au Maroc. Donc on le reproche une espèce d'hésitation et on se demande pourquoi cette curieuse propension à s'excuser platement chaque fois qu'ils sont en position inconfortable. Donc le journal arabophone disparaît. Il disparaît définitivement en 2010, surtout asphyxié par les dettes, parce que selon Ahmed Ben Shemsi, donc le directeur de le directeur de publication, il y aurait eu un boycott systématique des annonceurs initié par le pouvoir. Donc plus de publicité, plus de possibilités d'éditer. Alors quel rapport entre ce journal, ce magazine tel quel, et ce recueil de nouvelles que je vais présenter tout de suite? Ce recueil apparaît dans une collection appelée Miniature. Elle est éditée par Magellan et compagnie et dirigée par Pierre Astier. Elle est publiée en partenariat avec le magazine Courrier International. Voilà comment le site de l'éditeur présente cette collection. Alors que la mondialisation des échanges progresse et que le monde devient un pour tous, des mondes miniatures s'imposent. Des pays et des régions entières affirment leur identité, revendiquent leur histoire ou leur langue, réinvestissent pleinement leur espace. Quoi de plus parlant qu'une miniature, la nouvelle, pour lever le voile sur ce monde-là, celui d'une diversité infinie et porteuse d'espoir. Puis il ajoute, elles sont maliennes, libanaises, corses, etc. Elles vous entraînent vers des terres lointaines, au moins lointaines, sikh. Elles vous ouvrent à d'autres cultures, d'autres croyances, d'autres histoires. Les grandes plumes de la littérature contemporaine vous emportent loin, loin, loin. Bon, nous sommes dans un nouveau exotisme, on va dire. Ce recueil donc se présente, ou toute la collection se présente, comme un regard sur des pays étrangers à la France. Pourquoi le choix de ce recueil précisément comme échantillon significatif? D'abord, il faudrait voir que ce recueil fait intervenir comme auteur, comme même grande plume, si je cite Pierre Astier dans cette présentation, des auteurs qui écrivent pour la première fois, et qui écrivent pour la première fois en tant que littéraire, en tant qu'écrivain. Comme par exemple le chef de publication actuel, Karim Bukhari, celui de tel quel. Ou bien comme la journaliste, ou qui se dit elle en tout cas, Zineb Razoui, qui elle est la présidente du mouvement Mali. Mali, M-A-L-I, comme le pays, qui est le mouvement alternatif des libertés individuelles. Et qui s'est fait connaître surtout en annonçant sur Facebook, il y a 2 ou 3 ans, un déjeuner en plein air, non pas sur l'herbe, mais sur une grande place, en plein Ramadan. Donc, un défi à l'article 6 de la Constitution marocaine qui institue l'islam comme religion d'État, et en même temps, à la bienséance du rituel du jeûne. Voilà. Alors, l'écriture des nouvelles joue sur l'ambiguïté générique, bien sûr, qui est induite par le titre du recueil, entre fiction et ambition référentielle. Elle procéderait peut-être selon une logique du message ou de responsabilité, selon l'expression de certains écrivains eux-mêmes qui ont été interrogés lors du dernier salon du Maghreb des livres à Paris et qui parlent de cette responsabilité de l'écrivain. Le recueil comporte 6 nouvelles, dont l'une est traduite de l'arabe, celle qui s'appelle « Douleur de sable ». Je vous demande de vous reporter à la deuxième feuille qui contient les extraits de ces nouvelles. Donc, sur le plan formel, ces nouvelles relatent des fragments de vie où le personnage, en tant qu'individu, est mis face à une forme d'altérité, avec un dénouement où la confrontation trouve une résolution tantôt positive, tantôt négative, voire absurde. Les thématiques abordées sont aussi variées que l'homosexualité, les rapports hommes-femmes, la religion, l'avortement, le statut de la femme, l'errance, etc. Et on peut les regrouper toutes sous le grand thème de droits des individuels. Alors, à ce titre, l'ancrage dans le réel suggéré par le titre est manifeste, d'autant plus que des auteurs comme Zineb El-Razoui relatent l'expérience d'une militante du groupe Mali et du mouvement du 20 février, expérience qui est la sienne, bien entendu. Donc, vous voyez qu'il y a un jeu entre la fiction et la prétention à relater le réel. Je ne pense pas avoir le temps de lire les exemples. Vous me ferez confiance, puisque je crois que je n'ai plus beaucoup de temps. Simplement, je dirais que si Zineb El-Razoui met en scène une femme militante et qui se trouve dans la rue, non pas en train de militer pour revendiquer la dignité de l'homme et de la femme marocaine, mais déjà sa dignité en tant que femme, puisque, comme vous le remarquerez, très vite, on lui palpe violemment la fesse et on l'insulte de manière vulgaire pour lui rappeler son statut de subalterne dans une société qui n'accepte pas encore que la femme investisse l'espace public. Fadwa Islah, donc une autre signataire de ce recueil de nouvelles, pose la question de la femme autrement, dès le titre d'ailleurs, programmatique, « Demain j'avorte », donc elle pose le problème de la liberté de disposer de son corps par la femme musulmane. Le personnage féminin est une jeune femme issue de l'immigration maghrébine, donc elle situe l'action en France. Et bien entendu, non seulement elle pose la question de l'avortement et de la loi autour de l'avortement, mais aussi elle pose un autre problème qui est revenu, qui a été remis au goût du jour dernièrement par les fondamentalistes en Tunisie, celui de ce qu'on appelle le mariage coutumier, Zawaj Orfi. Et donc, elle pose réellement ces questions. Vous regarderez après ce qu'elle en dit. Elle pose aussi l'hypocrisie de ces imams en France, qui se disent des imams d'un islam, comment dirais-je, tempéré ou tolérant, etc. Et modéré, voilà, oui, modéré. Donc, elle pose aussi l'hypocrisie qu'il y a derrière un discours pareil, en montrant comment, en tout cas à travers la fiction, comment un certain imam instrumentalise le religieux au gré de ses intérêts, ou voire même de sa fantaisie, puisque c'est lui qui lui propose le zawaj orfi, c'est-à-dire le mariage coutumier. Voilà. Le narrateur de Abdellah Taïa, donc une autre nouvelle que vous retrouverez ici, donc c'est l'exemple numéro 5. Lui, son narrateur rêve d'une passion ravageuse en regardant le film de Patrice Chéreau, L'homme blessé, avec, à côté de lui, la présence castratrice de sa mère. Et cette nouvelle peut être rattachée à l'autre de Mohamed Leftah, donc la première, L'oubli d'Abou Nawes, qui lui dessine une filiation littéraire pour l'homo arabe, puisque justement, ou pour contrecarrer le discours qui consiste à dire que l'homosexualité nous viendrait de l'Occident, dans le monde arabe. Et donc il rappelle que déjà au Moyen Âge, il y avait un grand poète reconnu pour la beauté de sa poésie, mais aussi pour sa posture subversive sur ce plan-là. Voilà. Donc, on peut inclure toutes ces œuvres, toutes ces nouvelles, dans un corpus à problématique sociale, bien entendu, dans le sens où il s'agit bien sûr de poser au cœur du questionnement le statut social de la femme, de l'homme marocain, etc. Faire le choix de l'écriture pour faire d'un texte à la fois le récit et le support d'une recherche identitaire ou d'une affirmation identitaire permet aux auteurs de bénéficier d'un appui formel et théorique dans leur art, selon une perspective individualisante. Donc, a priori, rien ne prédispose un tel mouvement littéraire, concerté ou pas, à se considérer comme avant-garde. Toutefois, il se revendique, ou du moins, en tout cas, pour ce qui est de Zineb El Rezoui, qui est militante aussi sur le terrain, elle se revendique comme une avant-garde avec les membres de son mouvement, puisqu'elle sait pertinemment que de telles idées ne passeront jamais dans une société où la tradition et le religieux sont encore très prégnants. Donc, cette question de poser la problématique de l'individu, de sa place dans la société, se pose de manière intéressante parce que, comme le rappelle encore le penseur Al-Jabri, il note que la notion même d'individu n'existait pas dans le monde arabe. Et il rappelle que, par exemple, dans le plus grand des dictionnaires de la langue arabe, le Lisan al-Arab d'Ibn Mandhur, le plus grand dictionnaire arabe, donc, donne la définition de ce mot. D'abord, en premier, il donne l'exemple de Allah comme unique, puis il décline d'autres exemples où seule la dimension numérique est présente. Et il rappelle également que la notion de société qu'on traduit maintenant par « mujtama », elle-même ne renvoie pas à ce qu'on appelle la société maintenant, même si, bien sûr, ce sens est courant. Mais à l'origine, le mot « mujtama », « ism makan », donc c'est un nom de lieu ou de temps où l'on se rassemble, et donc n'avait pas cette dimension-là de société en tant que structure organisatrice, etc., où l'individu peut trouver sa place, et ainsi de suite. Et il rappelle également que l'individu, dans la société traditionnelle, n'existait à travers une classe donnée. Ce que j'ai essayé de traduire, mais c'est très difficile, je parle sous l'autorité de Makram Abbes, il parle de « al-kharaj wal-ata », le don et l'impôt, le sujet et le commandeur, en l'occurrence c'est le commandeur des croyants, donc le roi, l'aqida wal qabila, donc la doctrine et la tribu, al-badou wal hadar, le rural et l'urbain, et al-khassa wal amma, donc l'élite et le profane. Donc selon lui, selon Al-Jabri, l'individu n'existait que par rapport à ces composantes-là, à ces cadres d'appartenance qui le définissaient et à travers lesquels il se définissait, et on ne peut l'envisager en dehors de ces catégories-là. Et ce sont donc ces composantes qui le représentent. La proposition donc de définition d'Al-Jabri, qui concerne certes les sociétés médiévales, pour certaines du moins, on peut remarquer qu'elles sont toujours présentes. Et le monde globalisé dans lequel nous vivons a sans doute introduit d'autres composantes qui tentent d'émerger. Et c'est peut-être là ce qu'on pourrait voir comme, non pas comme avant-garde, mais comme quelque chose qui essaye de se réaliser. On pourrait donc dire que je suis en train de résumer, qu'à travers la tension dramatique des nouvelles, on assiste à une transformation psychologique où l'individu devient un centre focal dans un récit. Et donc, il apparaît dans son rapport au groupe, hein, dans un moment de tension à la fois singulatif mais aussi exemplaire. Et ces nouvelles, en tout cas, je postule qu'elles auraient une valeur performative, donc de expression d'un individu dans une société ou dans un groupe, dans une communauté qui ne le reconnaît pas en tant que tel. Et c'est là où il y aurait une dimension nouvelle, si ce n'est pas d'avant-garde. Alors, la relation avec telle qu'elle apparaît dans la mesure où il y a une espèce d'absence de frontières entre l'écriture de fiction et l'écriture journalistique, qui est très récente, qui est très nouvelle, où les uns, aussi bien les auteurs, par exemple, comme Taïa il est souvent invité à utiliser tel quel comme tribune pour parler du droit de l'homo arabe à s'exprimer, à vivre, et du rejet de l'hétéronormativité, pour Zineb El-Razoui également. Donc il y a une espèce d'accompagnement du journalistique pour le littéraire comme une voix ou des voix de la diversité nouvelle qui apparaît dans le monde arabe. Je ne sais pas si j'ai encore 2 ou 3 minutes. Deux ou trois minutes pour conclure. Voilà. La réception de cette nouvelle mouvance. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques entre ceux qui parlent de cette littérature condamnée à être une littérature autobiographique, une littérature de l'enfance, parce qu'elle serait une enfance de la littérature, et donc enfance d'elle-même, je cite Al-Hjoumri, mais aussi d'autres qui voient une génération qui est dotée de sa propre démarche littéraire et qui utilise la langue française sans aucun complexe, coupe complètement avec une vision antagoniste et mortifère avec la période coloniale que la première avant-garde aurait connue. Voilà. Ce qui est remarquable, c'est que ces pratiques s'accompagnent souvent de gestes particuliers dans l'exécution et investissent des lieux aussi où la mise en jeu du corps est réinventée, puisque des journalistes pratiquent aussi souvent le théâtre et invitent donc des troupes de jeunes à produire des petites pièces de théâtre en arabe et en français, et souvent dans un code-switching assez baroque, assez particulier. Je pense que la langue d'écriture, même s'il y a un volontarisme, disons, d'en parler de manière très distante et sereine, reste quand même problématique. Et ce problème n'est pas totalement évacué, puisque il y a encore une revendication de ce qu'on appelle l'identité arabe. Mais cette identité arabe ne pourrait bien sûr convenir aux aspirations, par exemple, d'autres, des minorités, voire même de minorités très visibles, comme par exemple les gens qui parlent berbère. Autrement, le nouvel usage de la langue française, ou celui qu'on voudrait en tout cas mettre en avant, est celui d'une langue neutre, c'est-à-dire celle qui porte une parole qui n'est ni celle de l'islam, donc l'arabe, ni celle des berbéristes, purs et durs et revanchards et parfois autonomistes, que ce soit dans le nord ou dans le sud, un peu moins, mais surtout dans le nord. Donc voilà, j'ai posé la question de la langue et de son rôle dans la société comme médium pour une parole contestataire. Et je laisse la parole à Laura qui vous parlera de la présence du français au Maroc. Et je vous remercie pour votre attention.